Bienvenue donc, pour cette cinquième séance du séminaire Musique, Lettres et Sciences Humaines qu'on organise ici depuis le début du semestre. Et ben, on est content de pouvoir accueillir Raphaël Legrand et Catherine Deutsch autour de cette séance donc, sur les rapports entre musique, musicologie et gender studies. Et ben, on est aussi content des sujets qui vont être traités aujourd'hui que je vais présenter très rapidement avant que Louis ne présente les intervenants. Donc, on aura deux interventions aujourd'hui qui concerneront tous les deux des sujets finalement différents et des périodes différentes. Donc, Raphaël Legrand nous parlera, le titre de son intervention, dont je le répète, il était sur le programme, mais je le rappelle, donc célèbre et invisibilisé, donc le cas de Marie-Justine Favard. Et en fait, il s'agit de traiter un cas exemplaire finalement du rôle des gender studies dans la mise en évidence des processus d'occultation. Des femmes dans l'histoire de la musique, de ses interprètes, et peut-être aussi des canons du répertoire musical. Et la seconde intervention, donc au recul de un ou deux siècles, un siècle je crois même, donc c'est celle de Catherine Deutsch, sur la musique, les musiciennes et le discours sur les femmes dans l'Italie des 16e et 17e siècles. Et il s'agira ici d'interroger, donc à partir de la littérature théorique et puis de traiter de cette période la construction d'archétypes genrés dans le domaine de la musique. Voilà, je vais laisser la parole.
Voilà, donc on est très heureux et très honoré d'accueillir Raphaël Legrand, professeur de musicologie à l'Université Paris 4, spécialiste de Jean-Philippe Rimbaud, à qui vous avez consacré votre thèse et de nombreux ouvrages et articles, mais aussi spécialiste de l'histoire des musiciennes, puisque vous êtes cofondatrice et co-directrice du CREIM, du centre de recherche Centre de recherche interdisciplinaire sur les musiciennes. Et vous êtes l'auteur de plusieurs articles, notamment sur les chanteuses de l'Opéra de Paris, si j'ai bien observé, dont le plus récent, me semble-t-il, est un article paru dans l'ouvrage collectif « Émancipation sexuelle aux contraintes des corps », dirigé par Hélène Marquet et Noël Bourges, qui s'appelle « Libertine, les femmes vertueuses, l'image des chanteuses d'opéra et d'opéra comique en France au XVIIIe siècle ». Vous organisez aussi un séminaire de master à Paris 4, auquel j'ai eu la chance de participer, sur la place des femmes dans l'historiographie musicale et les questions de genre dans l'histoire de la musique. Et nous sommes aussi très heureux et très honorés d'accueillir Catherine Deutsch, docteur en musicologie, chargée de cours et chercheuse associée à l'Université de Paris 4. Vous avez consacré votre thèse à... Je pense à Giovanni de Mac, donc vous êtes spécialiste de l'Italie au début de la période baroque, et vous avez consacré une biographie à Gesualdo, mais aussi vous vous intéressez aux pratiques musicales féminines à la Renaissance et au début du baroque, à la place de la musique dans la construction du genre et de l'identité féminine, et au discours sur les musiciennes à travers les écrits théoriques et littéraires sur la musique. Vous avez rédigé un article apparaître, qui s'appelle « Musique et Excellenza delle donne », les musiciennes dans les catalogues de femmes illustres en Italie, de Boccace à Cristofano Ganzini, et vous co-dirigez un ouvrage avec Caroline Giron-Panel sur les pratiques musicales féminines, qui est apparaître en 2013 aux éditions de Symétrie à Lyon, et qui s'intitule, qui va s'intituler « Pratiquer la musique au féminin en France et en Italie, de l'humanisme au romantisme ». Éducation, représentation, décorant. Voilà, on est très heureux de vous accueillir et on vous laisse la parole.
Merci beaucoup. Alors vous voyez que nous sommes deux femmes qui ont consacré nos thèses à des hommes. Et ensuite, il me semble, c'est un homme. Et donc, oui, c'est ça, on est des repentis. Et donc, on s'est, à un moment donné, posé la question des femmes, parce que finalement nous contribuions, enfin c'est comme ça que je l'ai senti, à écrire une histoire de la musique qui était une histoire très masculine, et enfin masculine dans le sens finalement qui était l'histoire des hommes, des grands hommes. Et personnellement, moi j'ai été parallèlement militante féministe, participant aux manifestations, en chantant à ma façon, et finalement il a fallu, je dis ça parce que c'est une question importante dans l'histoire des études féministes, il a fallu à un moment concilier la vie et l'œuvre, si je puis dire, Et donc, je suis en train de me bagarrer avec mon diaporama, voilà, que je ne vais pas vous montrer, mais que je vais regarder. Il a fallu, à un moment donné, finalement, faire un saut et changer de sujet, enfin, ajouter ce sujet au sujet canonique, on va dire. Donc, c'est un parcours, d'ailleurs, il faut le dire, relativement... juste un mot, j'ai une demi-heure, hein, c'est ça, pour... le format, c'est une demi-heure et discussion, c'est ça ou...
On a 2 heures en tout, donc vous avez largement une demi-heure.
D'accord. Et donc, oui, c'est ça. En France, où les études sur les femmes et sur le genre ne sont pas encore très développées dans certains secteurs, elles sont très développées en sociologie, en histoire, mais par exemple en musicologie peu, alors qu'aux États-Unis, ça fait plus de 20 ans qu'il y a beaucoup de productions, se pose toujours la question de la légitimité de ce genre de sujet et est-ce que c'est bon pour la carrière ? Voilà. Donc moi, j'ai finalement eu un parcours confortable dans la mesure où j'ai fait mes études et j'ai été recrutée comme travaillant sur des hommes. Et puis, je travaille aussi sur les chanteuses, mais enfin, en gros, un mot. Et puis, je suis passée à un sujet moins valorisé sur le plan de la carrière, à un moment où c'était confortable, on va dire, professeur. Paris Sorbonne, ça allait, je pouvais dire tout ce que je voulais. Je ne l'ai pas pensé comme ça, hein, mais ça s'est passé comme ça, ce qui fait que du coup, les choses se passent facilement. En revanche, j'ai des collègues de mon âge ou un petit peu plus âgés qui ont été des pionnières dans des études féministes ou des études de genre et qui ont eu toutes sortes d'obstacles dans leur carrière. Ça a été bien plus difficile. Donc je signale ça, hein, parce que il y a des types de sujets qui sont valorisés et d'autres moins. Bon, ça peut changer. Et disons que c'est à nous de faire changer aussi, et notamment aux personnes comme moi qui sont dans une situation confortable. Donc ça, c'était un premier point. Deuxième, je vais faire une étude de cas. Je crois que vous avez envie de méthodologie, peut-être de pistes bibliographiques. J'ai apporté un peu de livres en fonction de ce que je pouvais porter et des publicités aussi. Mais je vais quand même prendre une étude de cas et qui permettra de discuter un peu. Et puis, dans la discussion, si vous voulez, des pistes, des choses précises sur le plan de la méthodologie. Bon, je suis là pour ça aussi, bien sûr. Et donc, mon sujet, j'ai pris un cas intéressant, il me semble, le cas d'une chanteuse très connue en son temps et encore très connue maintenant. Madame Favart, c'est un nom qui vous dit quelque chose parce que non seulement on parle d'elle dans l'histoire de la musique comme chanteuse, mais aussi parce qu'elle a été personnage de théâtre. Elle a eu des épisodes de sa vie qu'on a trouvé assez théâtraux, et donc vous connaissez peut-être l'opéra comique d'Offenbach par exemple qui s'appelle Madame Favart, et il y a eu toute une floraison de pièces sur elle. Donc il y a finalement une mémoire, c'est contrairement à des musiciennes qu'on exhume en disant Louise Farin que vous connaissez, là on commence à la connaître un peu, mais dans la prochaine séance du Crème on va exhumer Mademoiselle Sicard. Je ne sais pas si vous connaissez Mademoiselle Sicard. Bon, elle écrit des airs de cour, on a la musique, on va les écouter pour la première fois depuis le XVIIe siècle, probablement. Enfin bon, voilà, il y a une personne comme ça dont on n'a jamais entendu parler. Dans le cas de Madame Favart, au contraire, elle est célèbre. D'où cette étude, il me semble intéressante. Le cas d'une femme qui reste célèbre, c'est souvent le cas des chanteuses, et en revanche, invisibilisée sur certains points de son activité. Ce qui est, à mon avis, une bonne étude de cas pour montrer finalement ce qui peut perdurer dans le cas d'une carrière féminine très diversifiée, ce qui peut perdurer, c'est-à-dire qu'on ne va pas se poser de questions. Elle a été chanteuse, on ne va pas se demander si elle a réellement été chanteuse. En revanche, elle a été auteur dramatique. En ce moment, on se demande si elle a réellement été auteur dramatique. On se le demande, ou même on ne se le demande pas, on ne la voit pas, comme, elle est invisible comme auteur dramatique, et comme musicienne, elle m'intéresse aussi comme musicienne, alors là, on la voit encore moins, je viens tout juste, du tout neuf, de trouver 2 airs de Justine Favart, c'est une découverte récente, et il y a peut-être d'autres choses, mais on va voir pourquoi c'est extrêmement difficile de retrouver sa musique. Et puis, enfin, j'avais prévu un PowerPoint, je vais l'utiliser pour faire mon petit discours, et puis je vous montrerai peut-être certaines choses si vous voulez, ou alors je vais décrire mes images, le discours peut être bien fait. Et puis, oui, encore un préliminaire, on peut parler, la recherche sur les musiciennes, les femmes, plutôt en général, l'histoire des femmes a commencé à recommencer, parce que c'est toujours un éternel recommencement, ça a toujours existé, on va voir avec Catherine qu'en fait, on a parlé des femmes, on a fait des catalogues, on a fait des listes, etc., puis après, elles sombrent dans l'oubli, et donc c'est ce processus d'invisibilisation qui m'intéresse. Disons que cet intérêt nouveau pour les femmes dans le monde académique, on va dire, est lié au mouvement féministe en France, hein, au mouvement, et puis aux États-Unis aussi, bien sûr, un petit peu avant, en France dans les années 70. Et donc, il s'agissait là d'études féministes, hein, ou sur les femmes. Hein, c'était les mots importants. Et puis, progressivement, on a intégré dans le monde académique français le terme anglo-saxon de genre, qui pose un problème parce qu'il y a le genre littéraire et le genre sexuel. C'est pas le même mot en anglais. On a gender et on a genre, c'est ça. Et donc, en français, c'est le même mot. Alors, ça crée un peu des problèmes. Et parfois, on dit gender. Le gender... avec l'accent français, gender, et soit on dit le genre, étude de genre. Et c'est vrai que maintenant, on va, dans les recherches plus récentes, on a plutôt tendance à parler de genre, c'est mieux sur le plan académique, c'est le cache-sexe, comme on dit, mais aussi parce que les problématiques se réorientent un petit peu, et c'est pourquoi j'ai apporté aussi un peu de bibliographie sur... sexe, genre et sexualité, c'est plutôt ce type de titre qu'on va avoir maintenant, plutôt que quelque chose de plus ancien, Michel Perrault, Les femmes ou les silences de l'histoire. Voilà. Donc, mais en fait, il faut quand même bien dire que derrière le genre, il y a les femmes. Hein. C'est une façon de parler des femmes sans dire le mot femme, ou féminisme, pire encore. Voilà. Alors, les femmes ou le silence de l'histoire, c'est tout à fait mon sujet. Michel Perrault, qui a été une des grandes pionnières de l'histoire des femmes, qui a été d'abord une historienne finalement des oubliés, des opprimés. Elle a été historienne des prisons, par exemple, au XIXe siècle, et qui était finalement historienne aussi des grèves ouvrières, du monde du travail. Et du coup, elle a été ouverte aux questions féministes dans les années 70. Et si je peux parler de la mémoire féministe, hein, pas ce que j'ai lu dans les livres, mais des femmes qui avaient fait le mouvement du MLF dans les années 70. Si j'ai bien compris, il y a des militantes qui sont venues voir les historiennes, les historiens, hein, c'est aussi quelqu'un comme Duby qui s'est engagé, en disant le problème des femmes, c'est qu'elles n'ont pas d'histoire. En fait, il y en a une, hein, mais on la redécouvre. Elles n'ont pas d'histoire, il faut faire l'histoire des femmes. Et Michel Perrault s'est engagé, elle s'est dit finalement, plutôt que je parlais des oubliés, des opprimés, mais en fait, il y a aussi les femmes, et elle s'est mise à faire l'histoire des femmes. Et d'où ce titre aussi, Les femmes ou les silences de l'histoire. C'était une historienne aussi qui parlait des hommes et puis qui s'est mise à parler des femmes. Alors, juste quelques mots pour lancer un petit peu les problématiques et entendre la voix de cette historienne, finalement. Dans son introduction, quelques mots de son introduction. Silencieuses, les femmes, mais on n'entend qu'elles, diront certains de nos contemporains, qui éprouvent jusqu'à l'angoisse l'impression de leur irrésistible ascension et de leurs paroles envahissantes. Mais plus seulement dans les salons de thé, débordant désormais du privé au public, de l'enseignement au prétoire, des couvents aux médias, et même, ô Cicéron, Saint-Just et Jaurès, au Parlement. Hein, voilà, il y a tous les espaces où, finalement, elles parlent, mais finalement, on va les entendre. C'est le fait de parler, elles parlent déjà dans les salons de thé, dans les couvents, etc. Mais c'est le fait de les entendre qui tout d'un coup, crée un effet... d'une irruption. Certes, l'irruption d'une présence et d'une parole féminine en des lieux qui leur étaient jusque-là interdits. Donc ça, c'est extrêmement important, la question des lieux, parce que les femmes ont toujours parlé, elles ont toujours été là, parlé, mais aussi elles ont fait parler d'elles. Elles ont été là, mais il y avait une question des lieux qui étaient interdits et qui étaient au contraire permis. Des lieux qui étaient jusque-là interdits ou peu familiers, et une innovation du dernier demi-siècle qui change l'horizon sonore. J'aime bien cette introduction parce qu'elle parle des femmes en tant que son. Tout d'un coup, on les entend. Et dans le dernier demi-siècle, c'est-à-dire l'écrit à la toute fin du XXe siècle, deuxième moitié du XXe siècle. Il subsiste pourtant bien des zones muettes et, en ce qui concerne le passé, un océan de silence lié au partage inégal des traces, de la mémoire et plus encore de l'histoire. Ce récit qui, si longtemps, a oublié les femmes, comme si, vouées à l'obscurité de la reproduction, inénarrables, elles étaient hors du temps, ou du moins hors événement. Alors là, évidemment, il faudrait tout décortiquer, hein, mais vous avez beaucoup de références. Et cette idée, finalement, le partage inégal des traces, c'est-à-dire l'archive, ou les textes, ou les partitions, vont être davantage conservés quand il s'agit des hommes, mais aussi, on va, dès le départ, laisser plus ou moins de traces, de la mémoire et encore de l'histoire. Alors, quelle est l'histoire qu'on écrit? Et c'est celle-là que ça va un petit peu que je vais montrer avec le cas de Justine Favard. Un récit qui longtemps a oublié les femmes. Et aussi, comme si les femmes vouaient à l'obscurité de la reproduction, c'est-à-dire elles sont mères, elles reproduisent, et finalement, c'est leur fonction. On est là, finalement, depuis Rousseau, hein, c'est ça. Et au contraire, finalement, elles doivent se suffire de ça. Et d'autre part, les hommes qui ne peuvent pas produire d'enfants, eh bien, vont produire des œuvres. Hein, il y a cette dichotomie qu'on a beaucoup au XIXe siècle. Mais aussi, elles étaient hors temps, ou du moins hors événement. Et là, on a un petit peu, on entend un peu ce que disent les ethnologues des autres. Hein, les autres civilisations, on a dit ça autrefois, ils n'avaient pas d'histoire. Hein. Donc voilà, on est un peu dans le... C'est un lien avec ce qui a été dit, peut-être.
Plus récent qu'autrefois.
C'est ça, encore maintenant, mais enfin, pour les femmes aussi, encore maintenant. Bref, vous voyez un peu ce type de configuration. Et puis, juste un mot encore. Voilà, ce silence profond, les femmes n'y sont pas seules. Il enveloppe le continent perdu des vies englouties dans l'oubli, où s'abolit la masse de l'humanité. Et là, on peut penser aussi à quelqu'un comme Arlette Farge, qui parle pas seulement des femmes, mais qui parle des personnes qui ne laissent pas de traces écrites d'elles-mêmes, hein, mais à travers l'archive, la voix des sanglots. Et puis enfin, un petit mot sur les sources. Hein, le volume et la nature des sources des femmes et sur les femmes varient par conséquent, j'ai laissé, j'arrive plus loin dans l'introduction, varient par conséquent au cours du temps. Donc plus ou moins de traces de femmes. Et très souvent, quand on parle, on dit alors, est-ce qu'il y a des musiciennes en France au XVIe siècle? Ah non, rien. Et puis, après, on se dit, bah si, quand même, un peu, etc. Mais peut-être, est-ce qu'il y en a moins en France au XVIe siècle parce qu'elles n'ont pas laissé de traces ou parce qu'on n'a pas encore fait de recherche? Il y en a beaucoup en Italie au XVIe siècle parce qu'on travaille. Voilà, est-ce qu'il n'y en avait pas? Il n'y a pas de traces? Ou on n'a pas cherché, hein? C'est un peu les étapes. Voilà. Mais quand même, ces traces, qui sont plus ou moins présentes, quand on cherche, qu'on en trouve plus ou moins, hein, sont en eux-mêmes les indices de leur présence et signes d'une prise de parole qui s'amplifie et fait reculer le silence. Parfois si intense qu'on a pu se demander, une histoire des femmes est-elle possible? C'est intéressant, c'est Michel Perrault qui lance ça. Elle se demande, mais finalement, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a des archives? Est-ce qu'il y a des textes? Ce qui implique un autre usage des sources qu'il faut traquer, lire différemment, susciter même pour des périodes récentes, comme l'a tenté l'histoire dite orale. Donc, bon, je ne vais pas continuer, c'est un très très beau livre, mais qui pose dès l'introduction beaucoup de questions sur cette histoire des femmes. Alors, chercher de nouvelles sources, où trouver, dans la mesure où les musiciennes sont rarement, elles le sont, mais plus rarement que les hommes, des professionnels de la musique. Hein. Les compositrices sont plus rarement dans l'histoire des professionnels. Eh bien, il va falloir chercher ailleurs, hein, non pas dans les publications qui émanent d'un circuit qui est plutôt masculin, mais ailleurs, il doit y avoir des sources. Mais aussi des traces sur les pratiques, et par exemple, dans le grand clivage privé-public, ça c'était le grand slogan du MLF, hein, c'était le privé et public, hein, le privé et politique. Mais aussi, donc, aller dans le monde du privé, qui était le monde des femmes, pour voir, par exemple, ce qui se faisait dans les salons. Et, bon, le compositeur ne va pas être nécessairement celui qui a fait le parcours conservatoire, prix de Rome, etc., mais aussi une femme, je ne sais pas, moi, élève de Chopin, j'en suis, si je reprends le 19e siècle et je file un peu la chose, qui a pu recueillir un type de technique, ça c'est Jean-Jacques Hegeldinger qui a travaillé là-dessus, un type de technique qui est finalement est très importante mais qu'on ne, à laquelle on ne s'intéresse pas parce qu'elle n'est pas professionnelle. Ça va être une femme noble, par exemple, qui par définition ne doit pas être professionnelle. Et donc, qui passe à la trappe. C'est pas seulement l'être pauvre, hein, mais c'est aussi chercher de nouvelles sources, mais aussi relire les sources à nouveau, c'est ce que nous dit Michel Perrault, hein, et interroger les sources pour voir si on ne les a pas lues, en cherchant uniquement les hommes et pas les femmes. Ça, c'est un peu ce que je vais montrer aussi là, tout de suite. Donc, cette relation à la source, à la trace, est très importante. Il faut changer un peu les habitudes, innover beaucoup. Hein. Et puis, l'autre chose, c'est un nouveau récit historique. Hein, parce que, bon, l'histoire est un récit, et un récit qui est fait par des hommes, par des femmes aussi, mais souvent qui ne cherchent que les hommes. Et là, il y a des habitudes. Il faut sortir de l'idée que, justement, les femmes ont été cantonnées au monde du privé, qu'elles n'ont pas été actives. Il y a plusieurs attitudes, vous voyez, on peut dire oh ben non, finalement les femmes, il n'y en avait pas, ou alors elles faisaient que des choses qui n'étaient pas de l'ordre qui nous intéresse. Et puis il y a une étape suivante qui est dire mais c'est affreux, ces femmes qui étaient tellement opprimées. Bon, c'est vrai qu'elles étaient opprimées, plus ou moins selon les lieux, etc., mais en gros il y avait quand même une inégalité constante. Mais de dire ah, c'est tellement affreux, elles étaient tellement opprimées que du coup elles n'ont rien pu faire. Alors qu'en fait, quand on commence à creuser, on se rend compte qu'elles ont pu faire beaucoup de choses, et que même parfois, elles ont été très reconnues en leur temps. Vraiment des femmes qui étaient louées, admirées, sans réserve, etc. Et puis, que c'est finalement le récit historique qui les a fait disparaître. Donc il faut sortir aussi d'un discours qui serait trop victimisant, et qui finirait par invisibiliser aussi. Hein, c'est important. Un autre point que j'aborde rapidement aussi, c'est comment faire maintenant que dans l'histoire de la musique, on fait plutôt de l'histoire sociale, de l'histoire des pratiques, comment faire l'histoire des femmes en tant qu'auteur? Parce que c'est la mort de l'auteur, hein, on en a parlé depuis Belle Lurette, la mort de l'auteur. Et très souvent, quand on dit « bon, ben maintenant je vais faire l'histoire d'Elisabeth Jacquet de la Guerre, je vais faire l'histoire des compositrices en France au XIXe siècle, et vous avez des portraits, voilà, on va s'intéresser, même si c'est aussi beaucoup un livre d'histoire sociale de Florence Lenay, mais je vais lancer le projecteur sur des personnalités importantes. » Il y a une forme de réaction qui dit « mais enfin, ça, c'est l'histoire ancienne. Maintenant, on fait l'histoire des groupes, des choses, etc. Et faire la vie et l'œuvre d'Elisabeth Jacquet de la Guerre, c'est vieillot. » Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à gérer, en fait. Parce que d'un côté, il faut parler d'elle, puisqu'on n'a jamais parlé d'elle. Il faut au moins qu'on sache que Madame Favart a écrit de la musique. Mais si je dis « Madame Favart, compositrice », on va me dire, oui, bon, d'accord, ça y est, mais bon, on retombe un peu dans les travers de l'histoire des grands hommes, on va faire l'histoire des grandes femmes. C'est là que je dis, les femmes ne sont pas des hommes comme les autres, et bon, bref, il faut quand même faire. Donc, il y a quelque chose d'un petit peu difficile, d'un côté visibiliser, et de l'autre, ne pas retomber dans les travers d'une histoire qui était celle de l'histoire des grandes personnalités, des personnalités qui avaient été triées, et qui devenaient des exemples. Alors, parce qu'après, si je fais l'histoire des femmes, on va me dire, oui, mais vous faites l'histoire des femmes blanches et des femmes noires. Et après, on va me dire, oui, mais vous faites l'histoire des femmes de la haute société et les ouvrières, etc. Et après, il y a toute cette fragmentation possible et finalement des invisibles dans les invisibles, etc. Donc, c'est une question qui agite beaucoup, hein, les milieux de recherche sur les femmes aussi. Et... qui est problématique. Voilà, il faut gérer ça quand on fait l'histoire des femmes, maintenant l'histoire des musiciennes. Et puis pour commencer à m'approcher un petit peu de Justine Favart, à propos du récit aussi historique, un mot sur le piège de la biographie d'actrice. Parce que moi qui travaille sur les actrices, les chanteuses, finalement, on a beaucoup écrit sur elle. Il y a une grosse littérature, depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, une grosse littérature sur ces femmes. Mais finalement, quand on lit cette littérature, qu'elle soit plus ou moins un travail historique, scientifique, ou qui frise le romanesque, ou qui soit parce qu'il y a beaucoup aussi de romans, hein, sur ces... Le nombre de romans qui a pu être écrit sur Mademoiselle Maupin, hein, cette chanteuse du début du XVIIIe siècle, qui se costumait en homme, qui se battait en duel, qui chantait à l'opéra, qui enlevait des religieuses en brûlant le couvent, enfin toutes ces choses... Là, je ne sais absolument pas si c'est vrai, hein. C'est une histoire qui apparaît au XIXe siècle. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est du pur fantasme? Je ne sais pas. Il faudra faire l'histoire de Mademoiselle Maupin. Mais il y a des romans sur elle qui sortent, et à chaque fois, il faut lui donner un prénom, d'ailleurs, parce qu'on ne connaît pas le prénom de Mademoiselle Maupin. Donc, voilà, une production alors, sur Sophie Arnoux, sur Mademoiselle Maupin, sur Madame Favart, sur ces femmes qui ont fait rêver les Goncourt, qui ont fait rêver les hommes du 19e siècle qui rêvait sur le 18e siècle, qui voyait le 18e siècle comme féminin, qui disait beaucoup de choses sur les femmes. Et alors là, il va falloir élaguer aussi, parce qu'il y en a trop, et il n'y a pas ce qu'il faut, on va dire. C'est très difficile ensuite, enfin ça peut être un sujet en soi, hein, la construction du personnage de la chanteuse, actrice, au cours du 19e et du 20e siècle. Mais après, quand on essaie de travailler cette littérature, c'est compliqué. Alors, dans le cas de Madame Favart, bien sûr, on dit qu'elle a été chanteuse, qu'elle a été la femme de Charles-Simon Favart, le très célèbre auteur dramatique, mais elle a eu, dans sa jeunesse, un moment difficile, on va dire, des démêlés terribles avec le maréchal de Saxe, la troupe de Charles-Simon Favart, dont faisait partie Justine Favart, était salarié, on va dire, engagé par le maréchal de Saxe sur le théâtre des opérations, plus ou moins en Belgique, et donc le maréchal a poursuivi de ses assiduités, pour dire ça de façon soft, ou alors a fait subir un harcèlement sexuel, pour prendre un terme récent, enfin bref. Et la grande question que se posent les historiographes, c'est de savoir si Justine Favart a cédé ou non. Sur la contrainte ou non. Mais sous la contrainte, en fait, la question ne se pose pas. Il y a ceux qui pensent. Alors, quand on lit les livres d'histoire sur le maréchal de Saxe, c'est évident qu'elle a couché avec le maréchal. Évident. Quand on lit les livres de musicologie, alors là, c'est partagé. Vous avez, par exemple, Auguste Font, qui est un grand spécialiste de Favart à la fin du XIXe siècle, qui a fait la première étude, mais vraiment de fond, si je puis dire, très 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 précise, avec la liste des œuvres. Enfin bon, elle peut être maintenant un peu réévaluée, mais enfin c'était le gros travail de l'histoire positiviste de la fin du XIXe, très bon. Mais Auguste Font est extrêmement misogyne, et donc... enfin il dit du genre elle était femme, elle était actrice, donc frivole, enfin on a ce genre de phrase là dans ce texte très sérieux. Puis bon, d'un coup. Donc pour lui, comme il est misogyne, Madame Favart évidemment a couché avec le maréchal de Saxe, et par contre à la même époque il y a Arthur Pougin, chevalier blanc, qui vient défendre la vertu de Madame Favart. Personne ne se pose la question, est-ce qu'elle a été est-ce qu'elle a couché avec le maréchal de Saxe sous la contrainte? Ça, c'est la question se pose. Pougin dit au contraire, non, on voit bien dans les lettres, elle a résisté, parce qu'elle a été enfermée dans un couvent, Favart a dû s'enfuir, il y a une contrainte très forte, hein, ce qui fait l'objet de l'opéra comique de d'Offenbach. Et... alors bon, je m'étale un peu là-dessus, mais en général, quand il y a un article ou un texte sur Madame Favart, il y a ça sur son histoire avec le maréchal de Saxe, et ça sur son chant, etc. Et la même chose pour Sophie Arnoux, qui avait eu beaucoup d'aventures. Bon, voilà, on parle de la vie sexuelle des chanteuses, et beaucoup moins de leur travail. Donc il y a un récit, au contraire, qui vient envahir, et invisibiliser le fait que ces femmes étaient des professionnels qui chantaient pratiquement tous les soirs, ou un soir sur deux, hein, aussi bien l'opéra que l'opéra comique, je pense Sophie Arnoux à l'opéra, Favart à l'opéra comique, qui chantaient un soir sur deux des œuvres toujours différentes à l'opéra comique, tous les soirs une ou deux pièces différentes. Hein, donc, j'ai vu que, bon, j'avais des semaines où Justine Favart chantait tous les soirs. Hein, plus les répétitions, puisqu'on changeait de... Il y avait beaucoup, beaucoup de renouvellement de répertoire. Donc, elle était occupée, cette femme. Hein, donc, il n'y avait pas non plus que les aventures. Il y avait le travail. Mais ce travail disparaît un peu. Et si je vous ai parlé tant de Fon et de Pougin, c'est que c'est très emblématique de ce style de récit. Se pose ensuite la question, bon, qu'elle était chanteuse, on ne se pose pas de questions, bonne ou mauvaise, bon, on discute. Mais après, il y a la question de Madame Favart, auteur. Elle s'est revendiquée auteur dramatique. Hein. Elle a écrit des pièces, elle a dit qu'elle a écrit des pièces. Et là, Fon dit non, non, non. Elle est actrice, elle est frivole, etc. Elle a fait souffrir ce pauvre Favart, qui était un peu mou d'ailleurs, parce qu'il ne s'est pas assez défendu d'elle. Et donc, elle n'était pas auteure. Et Pougin, qui lui est pour la vertu de Justine Favart, dit, mais si, elle a bien écrit ses pièces, d'ailleurs, Charles Simon le dit, etc. Et bon, ça, je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais le misogyne qui pense qu'une actrice n'est bonne qu'à coucher ne la voit pas comme auteur. Et le philogyne, Pougin n'est pas toujours philogyne, mais là, dans le cas de Madame Favart, il est philogyne. Qui la voit comme une personne qui finalement a sa volonté, hein, qui peut dire non, etc. Il la voit comme auteur. Je donne juste cet exemple, c'est pas toujours comme ça, mais ça montre aussi quand même comment on écrit l'histoire. Alors, Justine Favart, si vous voulez quelques éléments, hein, Marie Justine Benoîte Durand-Seret, dite Madame Favart, elle a épousé Charles-Simon Favart, elle est connue sous le nom de Madame Favart, née en 1727, mort en 1772, hein, pour montrer un peu la période. Elle a été active, je passe les détails de sa carrière, mais l'essentiel de sa carrière à l'opéra comique, ou même plutôt à la comédie italienne, qui fusionne avec l'opéra comique en 1762. Et donc elle a chanté dans les opéras comiques en vaudeville, et notamment ceux de Charles Simon, mais pas seulement, et puis ensuite dans les premières comédies mêlées d'Ariette avec une partition revendiquée par un auteur comme Duny, par exemple. Alors, Justine Favart, au début de sa carrière, était danseuse, d'ailleurs, et elle a cette polyvalence scénique hein, des femmes qui chantent dans l'opéra comique aussi, donc qui sont à la fois actrices, qui parlent et qui chantent, hein, et en même temps, elle dansait. Donc, danseuse, chanteuse, actrice. Et là, évidemment, c'est son rôle sur la scène. Elle est visible sur la scène, on parle de sa prestation, il y a des échos dans la presse, dans le Mercure, etc. Donc là, elle est très visible, et les traces sont présentes. Et on peut dire d'ailleurs que, bon, elle était vraiment une des vedettes de la comédie italienne, on parle au moins autant d'elle que des acteurs, des danseurs, des chanteurs de sexe masculin de la même époque qui étaient aussi des vedettes. Hein. On n'a pas l'impression qu'il y a un changement, une différence. Autre aspect de Justine Favart, dont on parle à l'époque et qui est encore signalé, c'est sa réforme du costume. On est à un moment où on passe d'un théâtre... Où le costume était plutôt emblématique, hein, symbolique, emblématique. Bon, pour montrer, figurer sur la scène une bergère, on pouvait mettre une personne en robe à panier, mais avec la houlette à la main et quelques petites guirlandes sur la robe à panier. Et on avait ces emblèmes qui suffisaient pour signifier qu'on était dans le monde pastoral. Et c'est notamment à la comédie italienne, au opéra comique, qui se crée cette sorte de basculement vers un théâtre plus réaliste, qui crée l'illusion. La comédie italienne a été pionnière, et en fait, c'est Justine Favart à la comédie italienne qui a été pionnière. Ensuite, la comédie française a suivi, ensuite l'opéra, etc. Et elle a joué le rôle de Bastienne dans Les Amours de Bastien et Bastienne, parodie du devin du village, en 1753. En robe de laine, en sabots, avec sa petite croix d'or et une coiffure plate. On a une image qui est très mauvaise, donc en plus, mais qui est là. Il y a une gravure, mais c'est important de voir qu'il y a une gravure qui représente, multiplie le tableau de Karl Van Loo, qui est un grand peintre de l'époque, qui l'a représenté dans ce costume, qui a fait date finalement. Et ensuite, il y a eu une gravure qui a été largement diffusée. Donc là, son rôle de réformatrice du costume est reconnu. Et on a encore des traces grâce à cette gravure. Donc là encore, on parle d'elle sur ce plan-là. Alors, on en parle, on dit à l'époque, oui, arrivée en sabots sur la scène, et puis quelqu'un dit, oui, mais ces sabots vont valoir de l'or pour les comédiens italiens, parce que tout le monde vient voir une vraie bergère en sabots. Alors, réformatrice du costume, oui. Auteur dramatique, et là, ça commence à être beaucoup moins facile. Auteur dramatique, Justine Favard a écrit six opéras comiques qui étaient jouées, et dont elle était d'ailleurs la principale interprète. Donc elle a mis son nom sur la page de titre. Son nom à côté d'autres noms, c'est-à-dire c'est Madame Favard et Arnie de Guerville, Madame Favard et Monsieur B, c'est un certain Bernard, enfin bref, Madame Favard et Lefroy de Méreau. On a d'autres noms. C'est quelque chose qu'on étudie maintenant, que quelqu'un comme Dominique Quérault étudie, c'est l'écriture en société, celle des opéras comiques du XVIIIe siècle, mais qu'on retrouve tout à fait au XIXe, hein, Meillac et Halévy, etc., on a ces duos là de librettistes, Barbier, Carré, etc. On étudie maintenant cela, l'écriture en société, plutôt que de dire il y a un auteur où le plus important c'est de se dire que finalement le spectacle est quelque chose de collectif et que l'écriture du livret souvent est aussi collective. Après il y a une personne qui va revendiquer ou plusieurs. Et notamment dans le cas d'une pièce. En vaudeville, il y a plusieurs choses à faire qui peuvent se distribuer, surtout qu'il faut aller très vite. Il faut penser au plan de la pièce, quel personnage, qu'est-ce qui se passe dans chaque scène, etc. Il faut chercher les vaudevilles, c'est-à-dire chercher les airs connus qui vont bien cadrer de façon astucieuse à telle ou telle situation. C'est-à-dire que quand on voit arriver la jeune première, on prend l'air Perrette était sur l'air bête, on chante autre chose. Mais on a le sous-texte du vaudeville, ça c'est ce qui est très amusant dans les vaudevilles du 18e. Donc il y a l'astuce de trouver les vaudevilles, hein, qui est un art que Charles Simon avait, mais aussi Justine. Il paraît que sur son lit de mort, elle chantait son épitaphe en vaudeville, elle inventait son épitaphe en vaudeville. Donc les vaudevilles. Ensuite, il faut écrire la pièce. Et si c'est de la prose et des vers, il faut deux compétences. Compétences pour la prose, compétences pour les vers, hein, dans les opéras comiques mêlés. Et puis, il faut aussi trouver des paroles sur les airs connus. Et là, c'est encore une autre compétence, qui est de trouver des mots sur une musique. Donc très souvent, les gens se partagent le travail. Mais quand il s'agit d'auteurs masculins, comme Favard, par exemple Charles Simon, souvent il va publier ses œuvres complètes sur le théâtre de Monsieur Favard, à un âge relativement avancé de sa vie, mais ensuite il écrira encore. Il publie son théâtre et finalement il choisit dans ses pièces les pièces où il semble qu'il a été le plus important. Parce qu'il a écrit toutes ses pièces quasiment en société, probablement. Hein. Il y a de véritables ateliers, et puis on prend des vieilles pièces, on les change, on les modifie. Mais ensuite, pour avoir une sorte de légitimité littéraire, il faut qu'il publie son théâtre, les œuvres complètes de Favard. Et là, on sent qu'il a hésité. Dans l'introduction, on dit qu'il n'a pas mis telle pièce parce que finalement, c'était avec M. Parmentier et il avait moins travaillé que l'autre. Etc. Donc il y a la question de la légitimation. Hein, et dans le cas de Favard, Charles Simon, on se dit, finalement, oui, bien sûr, il a travaillé avec les autres, mais c'était un tel génie que finalement, il a dû en faire plus. C'est comme ça qu'on voit les choses hein, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant que quelqu'un comme Dominique Quérault nous décortique cette écriture en société qui est très intéressante. Mais ça ne pose pas de problème. Et si on voit Favard et Voisenon, par exemple, il a beaucoup travaillé avec Voisenon, qui était un ami de la famille. Alors bien sûr, il était ami de la famille, alors est-ce que Justine Favard a couché ou non avec l'abbé de Voisenon? Ça, c'est aussi une des grandes questions qui occupe beaucoup de place dans la bibliographie. Bon, on dit Favart et Voisenon, mais oui, Favart est célèbre, Voisenon moins, donc bon, c'est une œuvre de Favart. Dans le cas de Justine Favart, c'est différent, parce qu'en tant que femme, on va quand même se poser la question de son autorialité, et elle-même met carte sur table. Donc sur la page de titre, on va avoir Madame Favart et Arnie de Guerville et un tel et un autre. Alors mon PowerPoint bloque à un endroit, alors tant pis. Et oui, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça ne marche plus. Et donc, ça fait rien. Il faudrait quand même que j'arrive à vous lire, ça va arriver, voilà, c'est pas grave. C'est un changement de format, je crois, avec changement d'ordinateur, bon, tant pis. Donc, elle met sa carte sur table, non seulement en mettant le nom de ses collaborateurs sur la page de titre, et c'est là que j'ai dû, par exemple, à un moment, faire dans un colloque, parler de Justine Favart parodiste, et là, j'ai dit, finalement, je parle du corpus de Justine Favart, c'est-à-dire des œuvres où elle a travaillé, et finalement, si on s'intéresse à Arnie de Guerville, il y aura deux pièces qui sont en collaboration avec Justine Favart, et puis aussi des pièces sans Justine Favart. Donc, en fait, on a des œuvres qui sont plutôt comme des ensembles avec des intersections que des œuvres séparées, vous voyez. Mais malgré tout, on va lui poser toujours la question de est-ce que vraiment elle était bien l'auteur de ces pièces. Et alors, à la façon d'une actrice d'opéra comique ou d'un auteur même aussi d'opéra comique, elle va mettre en scène ses interrogations dans une pièce. Dans un prologue, il y a toujours beaucoup d'autoréflexion comme ça dans l'opéra comique. Dans un prologue, zut, je n'arrive pas à la voir à partir de la diapositive actuelle. Non, c'est pas ça. Excusez-moi, je vais y arriver, que je lise. Dans un prologue, elle se le prologue d'une pièce, d'une de ses pièces, je crois que c'est La Fête d'amour, où Lucas et Colinette, voilà. Voilà. Elle se présente sur la scène en tant que Madame Favart. Le personnage, c'est Madame Favart, et l'autre personnage, c'est Chanville, qui est un acteur qui joue dans la pièce. Et donc, c'est un petit prologue qui présente les deux acteurs avant d'entrer en scène, en train de regarder s'il y a du monde, avec un peu le trac, etc. Donc, Chanville. Que faisons-nous dans le foyer? Allons-nous habiller, afin que l'on commence. Madame Favart. Pour un instant encore, je demande Cartier. Si vous saviez, je suis dans une transe. En vérité, je meurs de peur. Chanville. Ah, vous voulez jouer l'auteur? Je ne le suis que trop, peut-être, pour ma gloire. Et voilà, l'actrice qui, en fait, n'aurait pas tellement le trac pour entrer en scène, a le trac parce qu'en fait, elle est l'auteur. Chanville, ça, parlons sérieusement. Vous voudriez me faire accroire que la pièce est de vous? Madame Favart. Je vous en fais serment. Tant pis, je crains qu'elle ne tombe. Ah, oh, vous me tournez l'esprit. Quoi? Très réellement, vous en êtes l'auteur? Eh oui. Gare la bombe. Madame Favart. J'en tomberai malade de chagrin. Il vaut mieux ne pas la donner. Chanville. Quelle folie! Après tout, il n'est pas certain qu'elle soit mal accueillie. Par-ci, par-là, je crois qu'elle est assez jolie. Est-elle bien de vous? Ah, voilà l'éternel refrain. Et donc, elle met en scène cette incrédulité. C'est très amusant. Ah, voilà le refrain. Oui, sans doute. Parlez. Peut-elle être risquée? Elle, ce qui l'intéresse, c'est de savoir si c'est une bonne pièce. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est de savoir si elle est de Justine Favart. Oui. D'ailleurs, pour ce soir, nous l'avons affichée. Elle pourrait fort bien ne pas l'être demain. Ah, vous vous plaisez à me voir affligée. Point du tout. Je suis un ami consolant. À part elle, une pièce. Pff, Madame Favart. Eh bien, vous avez du talent. Votre mari, du moins, l'a corrigé. Et c'est toujours ça qu'on va voir, finalement. C'est lui qui l'a écrit. Madame Favart. Mais quand ce serait ainsi, penseriez-vous que ce fut un grand crime? On doit consulter ce qu'on aime et qu'on estime. Où pourrais-je trouver un plus sincère ami? Chanville. Un époux pour ami? Votre pièce est mauvaise, et cela n'est pas théâtral. Voilà, donc ça continue comme ça. Donc, c'est très amusant parce qu'elle a mis en scène, finalement, tous les obstacles, le fait qu'on monte sa pièce, mais surtout à ce qu'on la prenne pour l'auteur de sa pièce. Alors, elle admet que, Charles Simon a revu sa pièce. Mais on pourrait se dire aussi que probablement Justine Favart a aussi revu les pièces de Charles Simon. On travaillait ensemble, elle était l'actrice principale, etc. Mais bon, ça, personne ne l'a dit nulle part, donc on peut le supposer, on n'a pas de preuves. En revanche, sur Madame Favart, Charles Simon a écrit ceci après la mort de Justine. Madame Favart a eu effectivement part aux pièces où l'on a mis son nom. C'est-à-dire, elle en a été l'auteur, elle y a pris part. Pour les sujets, le choix des airs, les pensées, les couplets qu'elle composait. Donc le plan, le choix, les vaudevilles, et différentes vaudevilles dont elle faisait la musique. Et c'est là qu'on voit, c'est la seule phrase qui me fait savoir que, et c'est son mari qui le dit, hein, en effet, il était ami, hein, c'était un mari, ami aussi. C'est cette phrase de Charles Simon qui nous fait comprendre qu'elle a écrit de la musique des vaudevilles. Son mérite en ce genre est peu connu parce que sa modestie l'empêchait d'en tirer avantage. Donc, Justine Favart se revendique auteur, elle se montre même comme celle qui revendique son autorialité, mais en revanche, elle n'a jamais revendiqué d'être compositrice. Donc il y a deux formes d'invisibilisation, si je puis dire. L'obstacle de la crédibilité de la femme auteur, mais aussi il faut que la femme, dans le cas de la compositrice ici, se revendique, montre, dise. Et là, il y a aussi un obstacle intérieur. Est-ce que moi-même, je vais dire que je suis auteur? Pensez à Jane Austen, hein, c'est Virginia Woolf qui raconte ça, qui cachait ses romans, la grande romancière anglaise, qui cachait ses romans dès que les voisins venaient, dès qu'il y avait des gens qui venaient chez elle, qui cachait son manuscrit, qui interrompait son travail et cachait son manuscrit dans son secrétaire, parce que ça ne devait pas se voir. Donc, c'est très intéressant de voir chez Justine les deux aspects. Elle se bat pour être auteur, mais elle ne se bat pas pour être compositrice. Alors, elle se bat pour être auteur, notamment dans une pièce qui s'appelle Les Ensorcelés. Elle écrit une dédicace, à la princesse Galitzine, qui était une femme de l'ambassadeur de Russie et qui était très proche des milieux théâtraux. Et elle signe la dédicace. Donc c'est une œuvre écrite en groupe, mais c'est elle qui la revendique, le statut d'auteur, en signant la dédicace. Donc il y a des gestes de Justine qui nous montrent qu'elle veut être considérée comme auteur, même si elle joue carte sur table, elle explique que bien sûr, il y en a qui l'ont aidée, notamment pour la versification. C'est pas une bonne versificatrice. Voilà. Alors, maintenant, regardons un instant, si j'ai encore un... Oui, il faut que je m'arrête. Le théâtre de M. Favart, en 9 volumes, ou 7 volumes, je ne sais plus. Il y a le cinquième volume qui correspond au théâtre de Madame Favart. Donc si je vous montrais l'image, vous auriez la page de titre de l'ensemble des volumes, qu'on trouve sur tous les volumes, Théâtre de Monsieur Favart. Et puis, dans l'introduction, on dit, oui, mais le cinquième volume est consacré aux œuvres de Madame Favart. Et on a la liste, parmi les grands tubes de l'opéra comique du XVIIIe siècle, Bastien et Bastienne. La fille mal gardée, notamment, qui sont vraiment repris beaucoup de fois. Les Ensorcelés, grand succès. Annette et Lubin, énorme succès. Et puis d'autres, moins, qui sont tombés assez vite. La fête d'amour. Vraiment parmi les très grandes œuvres. Donc c'est très ambigu. C'est dans le théâtre de Monsieur Favart. Mais le cinquième volume, c'est le volume de Madame Favart. Mais sur la page de titre, il y a quand même théâtre de M. Favart. Puis après, on a le portrait de Mme Favart en frontispice. Donc là, on sait que c'est elle. Et après, liste des œuvres de Mme Favart qui sont dans le volume. Et là, on a les œuvres. Donc, d'un côté, c'est à l'intérieur du théâtre de son mari. Et de l'autre, sa place est extrêmement clairement délimitée. Donc c'est clair. Après, au XVIIIe siècle, il y en a qui vont dire « mais non, c'est pas elle », d'autres dire « mais si, c'est elle », on discute, d'accord. Mais Charles-Simon Favart, finalement, a ménagé une place. Il aurait pu publier à part, ou elle aurait pu publier, parce qu'elle était encore vivante à ce moment-là, publier à part ce théâtre. C'est à l'intérieur du théâtre de son mari, et là, on est un peu dans une idée de communauté de biens entre mari et femme, ou quand même c'est plutôt la femme qui appartient au mari, on va dire quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui est à la fois utile et en même temps un petit peu ambigu dans la présentation. Très bien. Alors, je finis rapidement. Ensuite, que fait-on dans les bibliothèques, etc. Et dans les morceaux choisis, les anthologies du 19e siècle, Justine Favard disparaît. On tire ces pièces du théâtre de M. Favard, et après on dit, mais oui, bien sûr, elle a peut-être fait quelque chose, mais pas grand-chose. Donc, c'est de Favard. Le nom de Charles-Simon Favard n'apparaissait jamais sur les pages de titre. Une fois dans une lettre, il dit, c'est une pièce, pour Anatole Lubin, c'est une pièce que ma femme a faite avec son teinturier. Le teinturier, c'est celui qui revoit à la fin. Et il faisait ça beaucoup pour les autres. Il a fait beaucoup le teinturier pour tout le monde. Quand l'habit est fait, on le met dans la teinture. Donc, on sait qu'il recorrigeait, elle-même le dit. Hein, mais en fait, il n'y a jamais le nom de Charles-Simon Favard sur ces pièces. Il y a Arnie de Garville, il y a Justine. Mais comme c'est dans le théâtre de M. Favard, eh bien, ça devient l'œuvre de M. Favard. Et puis, pour aller vite, j'aurais pu vous montrer... Alors, regardez les notices de la Bibliothèque nationale, c'est un sac de nœuds. Vous avez un volume d'Annette et Lubin qui est de Charles-Simon Favard, un autre volume d'Annette et Lubin qui est de Justine Favard, un autre volume qui est de Justine Arnie, etc., etc. On sent que la bibliothèque a d'abord référencé à Charles-Simon, et puis progressivement, Justine et les autres, parce que c'est aussi les autres, les pas connus, Arnie de Garville, Lefroy de Méreau, Monsieur B., etc., qui était là aussi quand même, qui commence à arriver dans les fiches d'autorité qui ne sont pas faites pour ça. Hein. Les autorités, comme on l'indique, il y a un nom, là ça ne marche pas très bien. Mais je voulais vous montrer aussi, mais j'en parle juste comme ça, un catalogue de vente. Les muses galantes, je ne sais pas si vous recevez ça, un catalogue de vente, de livrets, de partitions. Donc là, c'est un marchand de livres, et on a, j'ai toujours, ils vendent beaucoup de choses du XVIIIe siècle, ces petits livrets qui sont pas chers, pour 20 euros vous avez un livret d'opéra comique, et vous avez des listes comme ça. Donc on voit Favard, Charles-Simon Favard, pour Annette et Lubin, Bastien et Bastienne, etc., il n'y a que le nom de Charles-Simon Favard. Parce qu'un marchand de livres, il ne s'intéresse pas tellement à ça, il va dire si la reliure est bonne, etc. Mais il y a des pièces où on voit Favard et Voisenant. Donc quand c'est en écriture en société avec quelqu'un qui est un peu connu, et on se dit, si ça se trouve, il y a un collectionneur qui s'intéresse à Voisenant, on va mettre Voisenant. Mais dans les pièces de Justine Favard, on n'a pas le nom de Justine Favard, on a seulement Charles Simon. Donc dans l'écriture en société, si c'est l'écriture en société avec un homme chez un libraire d'aujourd'hui, l'homme apparaît, mais pas la femme. Hein, c'est intéressant. Et alors là, j'ai pris quand même le cas de Justine Favard, parce que c'est... formidable, enfin formidable. On a tellement pris l'habitude que les œuvres de Justine soient sans doute aussi celles de Charles Simon, et pendant longtemps j'étais comme ça aussi, hein. Je ne savais plus jamais lesquelles étaient de Justine, que, eh bien, en 2010, l'opéra comique, Salle Favard, hein, en référence à ce grand dramaturge, Place Favard, Salle Favard, etc., a monté une pièce pour célébrer le tricentenaire de la naissance de Charles-Simon Favard en 1710. Et on a choisi La fille mal gardée, qui est une pièce de Justine Favard. Donc, justement celle-là. Pourquoi celle-là? Je ne sais pas, mais c'était quand même fort. Hein. Et la Sorbonne, j'y étais aussi, le CELF, enfin ça c'est l'Académie, a fait un colloque sur le tricentenaire de Charles-Simon Favard, avec la gravure de Charles-Simon Favard, etc. Le colloque, très sérieux, voilà, j'étais là, les autres, et tout le monde a tous finalement cautionné ça, d'une certaine façon. Et puis, le concert qu'il a avec le colloque, La fille mal gardée, de Charles-Simon Favard. Voilà. Donc, processus d'invisibilisation qui est absolument à l'œuvre encore. Et pour les airs de Madame Favard, sa musique, dans une pièce de Charles Simon, 100% Charles Simon, enfin du moins revendiqué Charles Simon, j'ai trouvé deux airs. Dans les vaudevilles, on a sur l'air de Perrette et c'est sur l'air bête, sur l'air de l'air Réveillez-vous belle endormie, ou parfois, il y a un nom d'auteur, l'air de Sody, l'air de Blaise, hein, l'air de Douni. Et j'ai trouvé deux vaudevilles successifs avec R de Madame Favard, le suivant R de Justine, pour les distinguer tous les deux. Donc là, je pense que, comme la musique est écrite, je pense que c'est la musique de Justine Fabre. C'est tout ce que j'ai trouvé dans l'ensemble du théâtre de Charles Simon avec ce type de référence. Et je ne sais pas s'il y a d'autres traces, mais finalement, il y a certainement beaucoup de vaudevilles anonymes qui ont été écrites par Justine, mais elle-même n'a pas voulu les signer. Voilà, donc j'étais un petit peu longue, excusez-moi. Mais... Voilà mon histoire.
Merci
Justine invisible.
Alors peut-être que on peut procéder aux questions maintenant, ou s'il y a des questions maintenant, ou sinon on pourra peut-être les poser à la fin. Est-ce qu'il y a des questions urgentes?
Oui, c'est ça. Par rapport aux sources, en fait, vous avez parlé de sources littéraires, musicales et iconographiques. Je voulais savoir si vous avez aussi des sources archivistiques pour Madame Favart aussi.
Oui, il y a des archives. Oui. Il y a pas mal de choses sur son parcours. On a des. Alors, il va falloir les revoir. Ça, c'est un travail que j'ai pas fait. Les revoir avec un autre œil, peut-être. Oui, on a des éléments. Parce que justement, en tant que actrice et chanteuse, ça a été un personnage public important et on a gardé les traces. Contrairement à une compositrice inconnue dont les traces archivistiques existent quelque part, mais dont on ne sait même pas par quel bout commencer pour retrouver un auteur ou quoi. Donc dès le XVIIIe siècle, quelqu'un comme Campardon, qui a réuni pas mal de documents d'archives sur les acteurs et actrices, donne des cotes, etc. Il y a un travail d'archives qui est fait depuis le XIXe siècle, mais parce que c'est une chanteuse.
Enfin, on pourra revenir sur les interventions, mais ça sera très bien.